Chat perché, par Richard Keller, épilogue. Sagol prévint Gilles que le jour des adieux ne serait pas un moment très agréable. Il compara ce passage obligé à la cueillette d'un fruit avant sa maturité. La vie était ainsi faite. Il se tournait vers la pédagogie, il ferait profiter de son expérience d'autres Gilles. Gilles s'était levé avec le blues. Il n'appréciait pas particulièrement les effusions des départs. Le colonel les convoqua. Il souhaitait les voir ensemble. L'entrevue fut cordiale. Le colonel Ravier, homme grand à la silhouette anguleuse, s'exprimait rarement. Avare de ses mots, il les économisait. Il commença par leur parler de leur remplacement. Il comptait se donner un délai de réflexion supplémentaire avant de décider qui prendrait le relais de ces deux enquêteurs. Il avoua que ce départ simultané lui posait un gros souci. En supérieur compréhensif, il reconnut que pour eux, cela ne pouvait pas mieux tomber. Il se fit relater l'affaire Mélanie Pralon. À la fin de l'exposé de Sagol, il demanda à Gilles si son chef omettait quelque chose. Il lui répondit qu'il dissimulait un secret, le cachotier, car il envisageait de prendre sa prochaine permission au pied de la muraille de Chine. Le colonel fit un geste rare de sa part. Il applaudit longuement ses deux subordonnés. Il s'excusa de ne pouvoir assister à leur pot de départ, car il était convoqué chez M. le préfet à la même heure. Enfin, il les remercia chaleureusement et leur souhaita bonne chance dans leur nouvelle affectation. À 18h, dans la grande salle de réunion de la brigade, les deux hommes venaient de terminer la mise en place des tables avec des petits fours salés et sucrés. On se serait cru à une manif de gendarmes. Ils ne laissaient personne indifférent. Leurs collègues étaient venus nombreux. Pendant plusieurs années, ils avaient bataillé ferme pour résoudre des affaires. Cela laissait des traces et nouait des relations. Dès le début de l'arrosage, Sagol prit la parole afin de remercier tous ceux qui avaient répondu présents ce soir-là et aussi tous les autres. Il demanda qu'il n'y ait aucun discours et que ce moment de convivialité se passe en toute simplicité. Gilles prit à son tour la parole. Il dit qu'il y avait tant à dire sur Sagol, et réciproquement, que la nuit n'y suffirait pas. Il serait plus raisonnable de fêter simplement l'amitié. Un collègue fit une petite intervention humoristique en imitant l'accent chantant de Sagol. Un autre imita Gilles, appréciant la plastique d'une jeune créature. L'assistance rit de bon cœur. Les deux complices, enfin disponibles, discutèrent longuement avec les uns et les autres. Que de souvenirs furent passés en revue. Arriva le moment des cadeaux. Chaque brigade s'était cotisée pour leur offrir le meilleur. Parmi les nombreux présents, Gilles en reçut un qui le fit rire à gorge déployée. Il soupçonna Léo d'avoir participé à la décision. Il s'agissait d'une coïncidence qui ne devait rien au hasard. D'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est Sagol qui l'offrit à son ami. Il s'agissait d'un livre assez épais. Gilles crut tout d'abord que c'était une Bible. Il venait de prendre possession de la dernière édition de luxe des pensées d'un philosophe chinois nommé Confucius. Lorsqu'il put enfin maîtriser son fou rire, ému, il remercia les généreux donateurs avec un regard appuyé à Léo. Il s'expliqua brièvement sur son attitude. En parlant aussi du chat Confucius, il avait réussi à mettre de l'humanité dans une histoire horrible. Sagol eut droit à sa surprise. Un cadeau d'une grande fragilité. Gilles s'était démené comme un beau diable pour trouver l'objet offert aujourd'hui. Sur une galette 78 tours était gravé le chant des partisans. Maurice Druon et Joseph Kessel écrivirent en 1944 un hymne à la résistance, le chant de la libération, chanté par Germaine Sablon. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Sagol essuya une larme et donna une accolade sans fin à son ex-subordonné. Il recherchait depuis des mois ce disque sans succès. Et ce diable de Gilles l'avait trouvé. Voilà un enquêteur hors pair. Il est capable de détecter l'indétectable. Le pot se termina tard dans la nuit. Les deux compères saluèrent leurs collègues. Leurs prises de fonctions respectives étaient prévues pour le 5 octobre. Le colonel Rabier avait obtenu un report d'affectation d'une semaine à la demande de ses deux collaborateurs. Le temps s'est écoulé. Les saisons se sont succédées. Près d'un an après le dénouement du dossier des chats, bien des choses ont changé dans l'environnement de l'affaire Mélanie. Les époux Lioran se sont retirés dans le sud de la France. Ginette a été opérée avec succès d'un cancer. La boulangerie manque à Loïc, qui est devenu un virtuose de la pétanque. Justine Coinon a délaissé pour plusieurs mois la SNCF. Elle a pris un congé parental pour élever ses jumeaux, Lucien et Amélie. Clémentine Michaud travaille encore à l'Hôtel de France. Nestor Rioux, le boucher, ne boite plus. Il n'aime toujours pas les chats. Le docteur Jonas Sahuc est l'inamovible médecin dévoué du quartier. Son épouse Maureen a fondé une association franco-irlandaise afin de faciliter les échanges culturels. Louisa Dacruz, perturbée par la mort de Mélanie, est retournée dans son pays natal, le Portugal. Germaine Dercourt demeure l'indétrônable présidence de la SPA et le travail ne manque pas. Chantal de Lucinge vit le parfait amour avec une jeune femme de 30 ans. Elle n'a pas adopté de chat pour le moment. Le professeur Ernest Lapébie, toujours aussi jeune, vient de recevoir un prix récompensant les amis des animaux. Ghislaine Lapébie seconde son époux. Ils ont reçu pendant 3 jours le lieutenant Gilles et lui ont fait visiter la région et le viaduc de Millau. Pierre-Jean Côté, radiesthésiste, avait localisé l'assassin. On fait souvent appel à lui dans les situations désespérées. Christina Pietrangeli est décédée une semaine après les obsèques de Mélanie. Son fils Giuseppe Pietrangeli est l'heureux grand-père d'une petite Christina. Maître Jocelyn Léchaud vit avec Stéphanie, une de ses employées. Les corps de Rémi et Christophe Pralon ont été découverts lors de travaux pour la construction d'un barrage. Ils ont été identifiés grâce à la même gourmette gravée que leur avait achetée Mélanie lors de leur dernier Noël. L'intervention des époux Lioran et du docteur Sahuc a permis leur incinération. Leurs cendres ont été dispersées dans le vieux quartier. Christian Métayer est affecté au cabinet du ministre de la Justice. Il s'occupe du dossier de modernisation des prisons. Fred Mirion s'est tué lors d'une course en montagne. C'est la fin dont il rêvait. Mistigri est mort. Le service de nettoyage municipal l'a ramassé devant la porte de Mélanie. Il a terminé son voyage à la décharge municipale. Le temps ne lui importait plus. Son monde avait disparu avec son ami. Dans une autre ville, sur un vieux gramophone, à Pavillon, un disque de notre temps tourne. On peut entendre Léo reprendre, sur la voix éraillée, « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine ?»